Fred Kincaid, vous aviez moins confiance en ses capacités de s'améliorer? Est-ce que...
Ben écoute, je pense que ça lui donne l'opportunité. S'il passe au travers du ballottage, là, il a une chance de jouer plus souvent à Laval, puis espérer, tu sais, trouver son synchronisme, sa game, là, parce que ce qu'on a vu de lui, c'est bon, mais peut-être pas assez bon pour l'instant.
Vous venez d'entendre notre collègue Martin McGuire demander à Claude Julien, mais pourquoi Kincaid à Laval? Je pense qu'il n'y a personne qui l'avait vu venir.
Non.
On va aller demander au principal intéressé. Martin McGuire est en bout de ligne. Bonjour, Martin.
Bonjour.
Ça ne devait pas faire partie des rumeurs qui couraient sur la galerie de presse?
Non, non, mais honnêtement, à bien y penser, c'est peut-être pas si surprenant que ça, dans le sens où Kincaid n'a pas vraiment mal fait contre les Flyers, mais je pense que actuellement, là, Claude Julien n'est peut-être pas obligé de nous donner tous ses états d'âme, là, mais je pense qu'on est peut-être pas, on n'avait pas assez confiance en Kincaid pour ne pas vouloir changer les choses au moment où on se parle. Tu sais, parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est que des fois, c'est peut-être le temps de donner un petit pas de recul à Carey Price, de lui donner un petit peu de temps pour respirer. Mais si tu es toujours à te demander si ton gardien numéro 2 est capable de faire la job, c'est sûr que tu vas surutiliser, dis-je bien, ton numéro 1. Puis oubliez pas, ne minimisez pas non plus le message qui est envoyé par le gardien numéro 2 dans les entraînements. Et moi, le bémol que j'ai toujours eu par rapport à Keith Kincaid depuis qu'il est ici à Montréal, c'est que quand on a vu dans le passé des gars comme Budaj et Niemi, de la façon dont ces gars-là s'entraînaient quand ils étaient les numéros 2 ici, et qu'on compare avec l'ardeur que Kincaid y mettait, on était dans deux mondes différents. Et Carey Price est aussi un gardien de but qui s'entraîne à un haut niveau. Lui, quand il est à l'entraînement, comme on dit chez nous en bon québécois, il se prend pas le beigne, puis il joue, il s'entraîne exactement avec la même intensité ou presque que lors des matchs. Alors ça contrastait un peu avec ce qu'on voyait de Keith Kincaid.
Mais là, maintenant, la grande question, c'est qui va prendre la place de numéro 2? Parce que Lindgren n'impressionne pas depuis l'année passée à Laval. Primo est un peu jeune pour monter en haut. Ce serait quoi la meilleure solution?
Ça va être un de ces deux-là. Ça va être un de ces deux-là à court terme, la solution. Le Canadien joue demain soir à la maison contre les Islanders. On peut penser que Price va revenir devant le filet. À la fin de la semaine, par contre, il y a un 2-2. Parce que là, le Canadien se retrouve contre l'Avalanche du Colorado. Puis il y a les Rangers qui s'en viennent. Alors, tu sais, sur un 2-2, tu as peut-être besoin d'un deuxième gardien de but. Alors, est-ce qu'il y aura une solution à court terme, ce qui donnera un peu de temps ensuite à Marc Bergevin pour voir autre chose? Parce que là, Marc Bergevin est parti en Russie. Alors, pour éteindre les rumeurs tout de suite, parce que ça appartient aux fous, là, à un moment donné, il y en a qui ont pensé qu'il était parti en Russie pour rencontrer Bob Hartley, là. C'est totalement faux, là. Il est parti en Russie, notamment pour aller tenter d'attacher le dossier de Alexander Romanov, son jeune défenseur de 19 ans. Ce qui arrive avec Romanov, c'est qu'il joue avec l'équipe de Saint-Pétersbourg en Russie dans la KHL. Et comme les règlements de la Ligue nationale imposent le fameux contrat d'entrée de 3 ans, 3 millions à peu près, là, à quelques virgules près, en Russie, ils n'ont pas ça le règlement. Et alors, son équipe russe lui fait miroiter des millions plus importants que ce 3 millions pour 3 ans que le Canadien peut lui donner au maximum. Alors, c'est pour ça, entre autres, que Marc Bergevin est parti, parce que Romanov, c'est l'avenir de sa défense, c'est son défenseur gaucher dont il attend tellement depuis longtemps. Alors, c'est pour ça qu'il est parti là-bas. Puis, il y a aussi un jeune homme qui s'appelle Okulov. Il joue dans la même équipe que Romanov pour l'équipe de Saint-Pétersbourg. Alors, pour lui, c'est l'occasion de le voir, parce que Okulov, il y a de l'intérêt du côté du Canadien pour lui. Et là, vraiment, Toronto et Montréal sont dans le dernier droit pour une signature de contrat avec ce jeune joueur-là, qu'on dit là, dans le style ressembler à Dadonov, entre autres, qui joue avec les Panthers.
Bon, alors si c'est pour annoncer qu'il y a un gardien qui arrive de Laval, pourquoi est-ce que le Canadien aujourd'hui attend 17 heures pour en faire l'annonce?
Ça, c'est une technicalité, c'est une question de règlement. C'est que dans la Ligue nationale, là, une journée se termine à 17h puis l'autre commence après. C'est-à-dire que moi, si je rappelle quelqu'un de mon club école, si je le fais avant 17h, en termes de journée d'utilisation sur la masse salariale à la fin de l'année, ça va compter pour une journée où ton gars n'a pas été réellement avec toi.
Okay.
Si tu le rappelles après 17 heures, là, le compteur va commencer au lendemain. Alors, que tu rappelles Primo ou que tu rappelles Lindgren, c'est mieux de le faire après 17 heures pour une raison de technicalité.
Bon, allons faire un léger détour du côté de l'hôpital ou de la clinique médicale. C'était une journée de traitement pour Philippe Dano aujourd'hui et on a confirmé que malheureusement, Victor Mété sera absent pour 2 semaines.
Oui, 2 semaines dans le cas de Mété. Il est blessé à une cheville. Et dans le cas de Philippe Dano, il est aussi ennuyé par un problème à une cheville. C'est que dans le match de samedi après-midi contre les Flyers, il a glissé contre le filet des Flyers. Et lorsque sa cheville a frappé le filet, ça a fait une torsion. Alors, il a été en mesure de finir le match après un petit tour dans la clinique. Il a joué à Boston hier. Alors, on doit quand même le reposer pour être sûr qu'il puisse être là demain contre les Islanders. Puis dans le cas de Mété, c'est une mauvaise nouvelle là, parce que même si le jeune homme avait certaines carences dans son jeu, il n'était pas le défenseur gaucher idéal pour jouer sur le top 4, que ce soit avec Petrie ou avec Weber. Il reste que il va manquer aux Canadiens, c'est clair, dans les circonstances, parce que l'équipe n'a pas une grande profondeur de ce côté-là.
Et actuellement, la ligne bleue, celui qui a énormément de temps de glace, c'est Jarrett. Selon toi, est-ce que ce gars-là est capable de prendre autant de minutes que ça?
Non, on lui en donne pas mal trop. Mais dans les circonstances, je pense que c'est un peu ça. D'ailleurs, le problème que vit le Canadien, c'est que certains de ses joueurs obtiennent trop de glace. C'est la même chose avec Nate Thompson, qui devrait être un centre honnête sur un quatrième trio, mais que là, comme il y a une espèce de faiblesse au centre chez le Canadien, que ce soit Domi certaines fois, que ce soit Kotkaniemi pour certains matchs, on est obligé aussi de surutiliser Thompson et quelques autres joueurs comme ça. Pourquoi? Parce que, comme le disait Alain Vigneault, il y a des chaises vides chez le Canadien où il y a des chaises trop grandes pour la stature des joueurs qui sont assis dedans.
Ouais. En tout cas, j'espère que Bergevin va ramener une bouteille de vodka de la Russie qui va l'envoyer au DG des Jets, parce que je regarde ce qu'on a ramassé. On parlait d'Armia, donc 2 premiers buts en fin de semaine. Ouais. Chariot, 29 minutes. Ce qui nous arrive de Winnipeg fait drôlement l'affaire par les temps qui courent.
Ça va bien, surtout Armia, bien sûr, parce qu'on vient de parler de Chariot. Je pense que Chariot est un travailleur très honnête, là. Il a joué un gros match hier à Boston. Armia amène beaucoup aux Canadiens parce que le Canadien n'a pas beaucoup de ces joueurs-là. Et c'est une bonne transaction qu'il a fait, Bergevin, là-dessus. D'ailleurs, il chercherait bien à faire ce genre de transaction-là, mais tu peux pas faire ça tous les jours, là. C'est-à-dire qu'il a pris le contrat de quelqu'un, le contrat d'un gardien de but qui ne joue même plus dans la Ligue nationale, Mason, dont les Jets voulaient se départir. Puis pour soulager les Jets de leur gardien de trop, il a pris les services de Joel Armia en retour. Ça, c'est ce qu'on appelle un arrangement qui a fait l'affaire des Jets à ce moment-là, mais qui a fait l'affaire surtout du Canadien avec Armia, là, qui s'avère un attaquant très important actuellement.
Sinon, quand on parlait d'utilisation tantôt des joueurs, Martin, il y en a plusieurs des partisans qui reprochent à Claude Julien son utilisation, entre autres, d'un Will, d'un Cousins en avantage numérique. Selon toi, qu'est-ce qui peut expliquer que ces gars-là ont autant de temps de glace en avantage numérique?
Ben, est-ce que vous en voyez d'autres?
Effectivement.
Je vous pose la question, là. Ouais. Puis, vous savez, aujourd'hui, c'est intéressant parce que il y a 3 leaders de l'équipe qui ont réitéré leur confiance envers Claude Julien. Carey Price a dit, depuis Claude est ici, on l'a placé dans des situations pas toujours faciles parce qu'on lui a demandé de faire jouer des jeunes joueurs qui n'étaient pas nécessairement prêts pour ce à quoi on leur a demandé d'accomplir. Et dans ce sens-là, Claude Julien fait un très bon job. Jeff Petrie a dit, il n'y a personne qui a abandonné le coach ici. Et Brendan Gallagher nous a dit, il n'y a aucune distorsion entre le message de Julien dans le vestiaire et ensuite le message qui est propagé par le groupe de leaders au reste de l'équipe.
En terminant, Martin, au moment où on se parle chez les Canadiens, est-ce que le seul point positif serait le nombre de frites gratuites générées par les premiers buts de l'équipe? Et Martin, ça a l'air niaiseux ce que je te dis, mais j'ai demandé à ma collègue Alexandra de nous dresser des statistiques.
Oui, effectivement. Okay. Donc, on a eu 27 matchs de jouer là, pour l'instant pour les Canadiens.
Ouais.
Et en 27 matchs, on a eu 17 frites gratuites.
Bon, alors Martin, bon, mais là, tu sais, là-dessus, bon, évidemment, on est le seul média à avoir cette statistique-là. Ça a l'air niaiseux. Ils n'en parleront pas à l'antichambre, mais... ça nous amène à une question sérieuse. Ça nous en dit long sur le Canadien qui est incapable de protéger une avance.
Exactement. C'est le symptôme premier là, de leur récent problème, c'est-à-dire justement incapable de garder l'avance et aussi de mettre le but de plus. Là. C'est le petit but de plus qui mettrait le match hors de portée pour l'adversaire. Il vient pas non plus, ce but-là. Il y a des buts de fin de période qui sont difficiles à obtenir. Il y a des buts de fin de période qui se marquent contre le Canadien, qui arrivent souvent au mauvais moment. Hier, je pense qu'ils ont ouvert une toute petite porte à Pasternak. Ensuite, il y a eu une pénalité qui était peut-être pas nécessairement méritée, mais qui est arrivée pareil. Et comme la glace est tellement mince, ben, les Bruins marquent en avantage numérique. Puis là, l'avance de 2-1 pour Boston, une bonne équipe, paraît une montagne tout à coup pour le Canadien.
Martin, on va te retrouver avec grand bonheur demain vers les 19h à notre antenne. Oui. Le Canadien qui reçoit les Islanders de New York, c'est une bonne commande.
C'est une bonne commande parce que les Islanders jouent extrêmement bien. On le sait, ce que leur entraîneur a réussi à faire depuis qu'il est là, l'ancien entraîneur des Capitals de Washington. Et il va s'en dire demain, une soirée spéciale aussi, je voulais quand même le souligner. Les 110 ans du Canadien, il y a 11 des 12 derniers capitaines de l'équipe qui vont être là et qui vont être présentés dans une cérémonie spéciale avant la partie.
Souhaitons que ça inspire les troupes. Merci beaucoup, Martin.
Salut, bonne soirée.
Bonne soirée, Martin McGuire, à qui on parle tous les lundis.